vraiment revenir jouer? Pour combien de temps encore? Un mois après le lancement des opérations PlaceNet XXL, reportage à Rennes où la police semble reprendre possession de quartiers laissés jusque-là aux mains des trafiquants. Dans l'actualité également, ils vont tous se retrouver à nouveau au tribunal. Les familles des victimes de l'attentat de Nice à l'épreuve du procès en appel de deux proches du terroriste. Et puis les européennes, c'est loin d'être gagné pour la majorité. Alors Emmanuel Macron prépare le terrain pour les élections municipales de 2026. Vous allez l'entendre.
Europe 1.
Le journal de 6 heures sur Europe 1. Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Près d'un mois d'opération PlaceNet en France. Elles étaient lancées en grande pompe par Emmanuel Macron à Marseille avant de se multiplier sur tout le territoire. Mais pour quel bilan? Celui d'un calme précaire, disent les habitants de Rennes qui ont vu arriver en nombre ces policiers il y a 10 jours. Le reportage de Sandrine Prioul pour Europe 1.
On était envahis, on montrait même nos cartes d'identité pour entrer chez nous.
Envahis par un business à 25 000 euros minimum par jour, du cannabis à l'héroïne juste sous ses fenêtres. Du cash si facile que soudainement les petits dealers de province se sont transformés en narcotrafiquants, défendant leur territoire à l'arme automatique contre des gangs venus d'ailleurs.
J'étais bon enfant, mais enfin, c'était pas normal que ça se fasse là non plus. Après, ça s'est dégradé et ces gens-là sont cagoulés. Les accès sont bouchés, on est obligé d'ouvrir des barrières pour pouvoir sortir de chez nous. Parce que justement, il y a eu du laisser-faire.
Depuis peu, on revoit les familles investir cette place de ZUP, après des expulsions de squats, des tonnes de gravats anti-interpellations à la benne et au prix d'une mobilisation policière forte. Un répit fragile pour les riverains, mais le nouveau chef de la police, Yannick Blouin, veut y croire.
Il y a quand même un commissariat de secteur, il y a de la vie, le bâti est plutôt de bonne facture, c'est pas le cas dans bon nombre de villes où j'ai pu officier, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore au point de bascule où on s'aperçoit que le contexte est quand même beaucoup plus dégradé qu'à Rennes. Donc on ira vraiment jusqu'au bout.
Les autorités se sont donné encore 3 semaines pour en venir à bout, un délai évidemment trop court. Rétorquent les voisins.
Sandrine Prioul pour Europe 1. De leur côté, Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti sont attendus à Nice aujourd'hui pour inaugurer un internat éducatif. L'un de ceux qui doivent accueillir des élèves décrocheurs pendant les vacances scolaires pour lutter contre la violence chez les jeunes. Expérimentation d'une mesure annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale.
Est-ce qu'elle sera efficace? Comment peut-on enrayer cette dérive que l'on observe chez certains de nos jeunes? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons tout à l'heure à Béatrice Brugère, la secrétaire générale d'Unité Magistrat FO, auteur de l'ouvrage Justice, la colère qui monte. Elle sera l'invitée de Dimitri Pavlenko à 7h10 sur Europe 1.
Dans l'actualité également, Emmanuel Macron, sur tous les fronts électoraux, le président finalise son discours à la Sorbonne sur l'Europe. Ce sera jeudi pour tenter de relancer la campagne pour les européennes de son camp. Il patine dans les sondages. Alors déjà, cap sur une autre échéance électorale, les municipales de 2026. Arthur Delaborde, le chef de l'État, à la manœuvre pour pousser certains poids lourds de son camp à se présenter.
Ancrer le macronisme dans les territoires avant de quitter l'Élysée, c'est l'ambition du chef de l'État. Il faut construire des digues au niveau local dans l'hypothèse où le RN prendrait le pouvoir dans 3 ans, explique un ministre. Le camp présidentiel part de loin. Les dernières municipales en 2020 s'étaient soldées par un échec cuisant, en particulier dans les grandes villes. Pour éviter la reproduction de ce scénario en 2026, Emmanuel Macron s'active en coulisses. Un membre du gouvernement confirme avoir reçu récemment un SMS de la part du chef de l'État pour l'inciter à se lancer. Plusieurs figures de la Macronie plancheraient déjà sur leur candidature. La ministre de la Culture, Rachida Dati à Paris, sa collègue chargée de l'enfance, Sarah El Haïry à Nantes, le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave à Bordeaux, la secrétaire d'État aux anciens combattants, Patricia Mirales à Montpellier, la députée Violette Spilbou à Lille ou encore la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache à Marseille, même si certains voient plutôt l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, comme tête de liste dans la cité phocéenne.
Les explications d'Arthur Delaborde. En attendant, étape importante pour un texte attendu comme historique. Le projet de loi sur la fin de vie entame tout à l'heure son marathon parlementaire. La commission spéciale à l'Assemblée ouvre ses travaux au programme des auditions de professionnels de la santé. Mais 13 organisations de soignants déplorent ce matin de ne pas être entendues par cette commission dans les colonnes du Figaro. C'est le cas notamment de groupements de gériatres alors qu'un quart des Français meurent en EHPAD, affirme-t-il.
Une bataille judiciaire reprend aujourd'hui après l'attentat de Nice. C'est le début du procès en appel pour deux proches du terroriste.
Tous deux condamnés à 18 ans de prison en première instance. L'un accusé d'avoir donné l'idée à l'assaillant d'utiliser un camion comme arme. L'autre de lui avoir fourni un soutien financier. Nouveau procès donc et nouvelle épreuve pour les familles de victimes comme Thierry Vimal. Cette nuit-là, il a perdu sa fille de 12 ans à peine.
C'est dur, oui, parce qu'on va revoir les accusés, ce qui ne fait jamais plaisir. On va se rappeler les faits, ce qui ne fait jamais plaisir. On va écouter des témoignages, on va livrer le nôtre si on a envie. C'est des moments très durs. Et en même temps, c'est aussi des moments qui, paradoxalement, font du bien aussi. C'est des temps où on est sur ça, parce que les gens vivent leur vie, les gens pensent à autre chose. Même les gens, même les Niçois, tout ça, sont passés à l'état d'autre chose. Et nous, on est un petit peu seuls là-dedans. Et on se dit qu'il va y avoir plusieurs semaines qui vont être centrées là-dessus. On va parler que de ça, on va éclaircir des points. Ce que je peux faire pour le voir de ma fille, c'est suivre ça du plus près pour essayer de comprendre. Voilà. Moi, la première instance n'a pas suffi, pour moi, n'a pas suffi à faire éclater la vérité. On ne sait pas, moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas fait dans ma tête de scénario. Ça s'est passé comme ça. Je crois que c'est un peu ce que disait le président Raviot aussi à la sortie. Il dit qu'il reste des zones d'ombre. Ça reste quand même la question et un mystère. Comment s'est goupillé cet attentat, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est mis en place?
Et ce témoignage au micro européen de Stéphane Place, la menace terroriste qui inquiète les autorités. Pour Pessar, la Pâque juive qui débute aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux forces de l'ordre de renforcer leur présence devant les lieux de culte, le tout dans un contexte de tension liée à la guerre à Gaza. Alors qu'Israël, sur cette guerre justement, va augmenter la pression militaire sur le Hamas dans les prochains jours, c'est ce qu'a promis hier soir son premier ministre Benjamin Netanyahou. Seul moyen, dit-il, pour remporter la victoire contre les terroristes et obtenir la libération des otages.
Allez, à 6h06 sur Europe 1, un bon bol d'air, Victor, dans cette actualité chargée avec la sortie d'un roman écrit par l'un des plus grands dessinateurs français.
Ah oui, c'est Jean-Marc Rochette, au sommet de son art, déjà au stylo, mais aussi au sommet des montagnes. C'est le thème de son premier livre, Au cœur de l'hiver, Sébastien Bordenave.
Jean-Marc Rochette, c'est un monstre de la bande dessinée transpersonnage qui est devenu un film et une série de Bong Joon-ho, le réalisateur du film oscarisé Parasite. On lui doit aussi la BD La Dernière Reine, élu livre de l'année par le magazine Lire, toutes catégories confondues. Et donc là, un roman, son histoire, celle du confinement, qui ne lui a pas juste donné envie de faire son propre pain pendant 15 jours. Non, Jean-Marc, lui, s'est installé avec son éditrice de femme dans le massif des Écrins, dans la haute vallée du Vénéon. Petit détail, son refuge pendant les 3 mois hivernaux devient totalement inaccessible avec 7 km de neige et couloirs d'avalanche, avec les loups comme seul voisin et pour seule compagnie, sa femme. Ça peut faire peur, je parle des loups bien sûr. Au cœur de l'hiver, c'est le récit d'un projet de vie qu'on a tous rêvé de faire un jour. Eh bien vivez-le sans risque et en lecture avec ce récit de montagne qui questionne pour les amoureux de nature, de vérité et d'avalanche.
Sébastien Bordenave pour Europe 1 et puis un mot de football. Le sommet de la Ligue 1 n'est plus très loin non plus pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont balayé Lyon 4-1 hier soir. Le PSG compte 11 points d'avance sur le deuxième Monaco. Tout ça à 5 petites journées de la fin du championnat. Ça sent très très bon pour le titre.
Merci Victor Pourchet et bienvenue à tous sur Europe 1. Il est 6h07. Tiens, autre rendez-vous avec l'actualité sur Europe 1. Pascal Praud vous donne 2 rendez-vous par jour même. D'abord l'heure des pros de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews. Vous retrouvez ensuite Pascal Praud et vous de 11h à 13h. Vous avez la parole en direct sur Europe 1. Vous réagissez en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé Europe 1 vous rappelle.
Vous restez avec nous dans un instant, le pressing, la revue de presse d'Europe 1, bonjour, avec notamment des travaux de grande ampleur devraient être entrepris pour sauver l'emblématique monument militaire, le Fort Boyard.
A tout de suite.
5h, 7h,
Europe 1 bonjour.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Bonjour. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Europe 1, bonjour, 5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Soyez tous les bienvenus sur Europe 1. Si vous nous rejoignez ce lundi matin, il est 6h10 et c'est votre pressing, la revue de presse décalée avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Qu'avez-vous lu dans les quotidiens ?
Balayé par les vagues et les tempêtes, le Fort Boyard est aujourd'hui menacé de destruction.
On va en savoir plus dans un instant.
Ouais,
des bonnes nouvelles, j'espère.
Oui.
Vous inquiétez pas.
Marcel Pagnol, disparu il y a 5 ans, ne reconnaîtrait plus les paysages de Provence de son enfance.
À la une de vos journaux également, aujourd'hui en France, nous parle ce matin de ces automobilistes qui roulent mais sans contrôle technique. Oui, ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas-là à faire le contrôle buissonnier. Bah, tout simplement par peur de la facture des réparations. Elle a augmenté de 11% oui. en moyenne, cette facture, pour faire réparer votre voiture.
Mais comment on arrive à savoir que de plus en plus de personnes, de conducteurs, sèchent le contrôle technique,
Alors,
Alexandre.
C'est très simple. En fait, vous comparez deux mesures. D'un côté, le parc automobile français qui vieillit. Mm-hmm. Une voiture qui roule sur nos routes, elle a en moyenne aujourd'hui 12 ans et demi. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a mesuré également que l'âge moyen des véhicules qui passent le contrôle technique, lui, au contraire, il rajeunit.
Donc, oui, il y a un hic dans l'histoire.
Vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. La conclusion, c'est quoi ? C'est que les propriétaires de vieilles voitures ne prennent pas ou plus le risque d'aller au contrôle technique. Alors, ne prennent pas le risque pour leur budget. Pour la sécurité routière, évidemment, c'est autre chose.
Hein. Attends, c'est exactement ce que j'allais dire. Ne pas contrôler sa voiture, c'est quand même prendre un risque énorme.
Oui. C'est dangereux pour soi déjà, oui. Et puis c'est dangereux pour les autres.
Bien sûr.
Hein. C'est pas marginal. Hein. Quand vous lisez aujourd'hui en France ce matin, le phénomène, là, les autorités estiment que le taux d'évitement, hein, c'est le taux d'évitement est de 5 à 7%. En fait, c'est la proportion de voitures qui ne sont pas contrôlés. 5 à 7% du parc, c'est
beaucoup,
énorme.
Hein.
Hein.
Oui, c'est énorme.
Si vous êtes contrôlé par la police, par la gendarmerie, sans votre contrôle technique à jour, c'est 135 euros d'amende, mais le vrai risque, il n'est pas là. Il est sur la route. Le contrôle technique,
forcément,
c'est un petit peu le médecin des voitures. Mmh. Vous pouvez rouler, de fait, sans le savoir, avec des avaries qui vont mettre la vie en danger, la vôtre, et celle des autres, encore
celle
une
des
fois.
Autres aussi, ouais.
Le budget avant la sécurité, voilà ce qu'on découvre à la une du Parisien aujourd'hui en France. Effectivement, de plus en plus de conducteurs choisissent cet ordre de priorité, et en particulier les propriétaires de véhicules plus anciens. Dimitri, vous allez nous parler du Fort Boyard.
Eh oui.
Vous nous emmenez donc en Charente-Maritime. Ce matin, vous nous dites que ce célèbre fort serait menacé de destruction.
Ben écoutez, ce sont les mots de la présidente du département dans le quotidien gratuit 20 minutes. Le monument, construit en 1804 sous Napoléon, eh bien, a de plus en plus de mal à résister à la force de l'océan, aux tempêtes hivernales. Plus les années passent, plus la structure du fort se dégrade. Eh bien oui, à tel point qu'aujourd'hui, il est menacé de destruction si on ne fait rien.
Mais attendez, rassurez-nous, on ne va pas le laisser comme ça, il va être rénové.
Ben oui, Omblin, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir toujours regarder le jeu à la télé.
Ah,
il va être rénové, ce fort, puisque le département, propriétaire du monument, a donc décidé de le retaper. Coût du chantier, 44 millions d'euros. Hein, tout de même, c'est beaucoup.
C'est plus qu'un retapage, là.
C'est une rénovation, oui. Et même une reconstruction, entre guillemets. Mais ces travaux, ils vont permettre de renforcer la structure de ce monument historique, avec la construction notamment d'un éperon et un havre d'accostage, en fait, qui vont le protéger des fortes vagues. Donc voilà, ça, c'est la première bonne nouvelle. Première, oui, car il y en a une deuxième. Le fort pourra désormais accueillir des visiteurs.
Oui, parce que je me posais la question, c'est pas déjà le cas, on peut pas visiter le fort pour l'instant.
Non, actuellement, en fait, on peut juste faire une balade
autour
du fort.
Ah oui, on tourne autour,
une balade en bateau, exactement. Oui. Mais ça va donc changer, hein, la fin des travaux sont en 2028, dans 4 ans, mais vous pourrez désormais entrer à l'intérieur et découvrir les entrailles du fort. Ce seront des visites payantes, sous réservation, mais qui feront plaisir aux plus grands fans de ce lieu mythique.
Ah. Mais oui.
Le Fort Boyard voit toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est dans le quotidien gratuit 20 minutes.
Et rendez-vous donc pour les premiers tickets de visite, vous nous avez dit
2028. Donc 4 ans.
C'est pas si loin.
C'est pas si loin.
Non,
oui, c'est demain.
Hein. Voilà.
Ah oui. Omblin, qu'avez-vous lu dans la presse ?
En fin de semaine dernière, on a commémoré les 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol, et pas les 5 ans, pardonnez-moi pour cette erreur.
Oui.
Lui qui, dans sa série de 4 romans autobiographiques sur ses souvenirs d'enfance, racontait ses étés passés dans le pays d'Aubagne au début du 20e XXe siècle. Ils chassaient la perdrix, se frottaient les mains sur les branches des romarins. Sur les plateaux de Garrigue, écrit Marcel Pagnol, le thym, le romarin, le cadre, le kermès gardent leurs feuilles éternelles autour de l'aspic bleu, la lavande.
Oui.
Et bien, si Marcel Pagnol se promenait sur le massif du Garlaban aujourd'hui, il ne reconnaîtrait plus le paysage, nous dit le site d'information, le Huffington Post.
Mais en quoi il est si différent, Emblée ?
Eh bien, la Garrigue, avec ses petits arbustes bas où s'épanouissait toute une flore, toute une faune, il y a un siècle, a été en partie remplacée par des pins d'Alep, une espèce pionnière du bassin méditerranéen. En fait, c'est un phénomène provoqué par la disparition du pastoralisme, cet élevage.
Les éleveurs, oui.
Voilà, sur des pâtures. Les hommes et leurs troupeaux quittent les massifs, les essences endémiques ont repris leurs droits. C'est ce qu'explique un professeur émérite de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. En fait, la forêt s'étend à nouveau.
C'est certainement le changement climatique qui est en cause aussi, le réchauffement.
Oui, bien sûr. D'après un paléoclimatologue, cette fois, la sécheresse a eu des graves effets sur la disparition de certains arbustes. Des espèces exposées sur les crêtes du massif du Garlaban, comme le romarin, ne résistent pas au combo sécheresse et manque de précipitations. Cela a des conséquences sur la faune aussi. La cigale, qui se met à chanter dès le printemps désormais, se tait à la fin du mois de juillet. Et oui, alors avant, c'était tout l'été, les cigales. Certains insectes, des oiseaux, préféraient les milieux ouverts que les milieux fermés comme la forêt. Alors si le climat continue de se réchauffer, écrit le Huffington Post, les paysages de Marcel Pagnol dans la Garrigue de Provence pourraient bien devenir de lointains souvenirs.
Il faut revoir Jean de Florette et Manon des Sources. Voilà, voilà à quoi ça me fait penser.
Exactement. Et la gloire de mon père.
Bien sûr.
Le château de ma mère, c'est la valse d'Augustine qu'on est en train d'entendre.
Merci, Ombline. Merci, Dimitri.
À demain.
Dimitri Vernet, c'était votre pressing, chers auditeurs. La revue de presse décalée d'Europe 1, bonjour.
Alors, encore un petit peu de musique dans un instant à suivre à la partition de Véronique Sanson.
À tout de suite sur Europe 1.
5h, 7h.
Europe 1, bonjour. Renaud.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, à la base c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, des 15€ et jusqu'à 25€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Dans un instant sur Europe 1, la partition de Véronique Sanson, mais d'abord le journal permanent à 6h17, Victor Pourchet.
Le procès en appel de deux proches du terroriste de l'attentat de Nice commence aujourd'hui. Ils avaient été condamnés à 18 ans de réclusion en première instance. L'un est accusé d'avoir donné l'idée à l'assaillant d'utiliser un camion comme arme, l'autre de lui avoir fourni un soutien financier. Grâce aux 61 milliards de dollars d'aide américaine votée ce week-end, l'Ukraine ne sera pas un deuxième Afghanistan. C'est en substance la formule du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la télévision américaine hier soir, référence au conflit dans lequel s'étaient enlisés les États-Unis pendant près de 20 ans. Et puis en cyclisme, Tadej Pogacar n'a pas tremblé. Grand favori du Liège-Bastogne-Liège, le Slovène a remporté la doyenne des classiques. À noter la très belle deuxième place du Français Romain Bardet et ses larmes sur la ligne d'arrivée.
Merci Victor, le journal de 6h30 dans une dizaine de minutes sur Europe 1.
Europe 1.
D'abord à 6h18, votre partition Omblin Roche consacrée ce matin à Véronique Sanson qui s'installe ce soir au Grand Rex à Paris et pour 3 jours de concert.
Oui, celle qui fêtera ses 75 ans mercredi a repris la route au mois de janvier et propose un show où se mêlent ses grands succès et des chansons moins connues. L'occasion ce matin de retourner un peu plus de 50 ans en arrière lorsqu'avec Michel Berger, Véronique Sanson invente la chanson française rock.
rappelez, Omblin, ça s'est passé comment la rencontre entre Véronique Sanson et Michel Berger?
C'était en 1967. Véronique Sanson fait alors partie d'un trio, les Roche-Martin. Il y a aussi sa sœur, Violaine Sanson, et le chanteur François Bernheim avec Jean-Michel Schoenberg. Michel Berger réalise les deux 45 tours pour le label Pathé Marconi. Elle est à peine majeure. Lui a un an et demi de plus. Il n'a Dieu que pour elle. Commence alors une relation amoureuse sage. Les mots d'Yves Bigot dans son livre Quelque chose en nous de Michel Berger.
Ça veut dire quoi exactement, une relation amoureuse sage?
Ils se fréquentent la journée, composent, deviennent partenaires de piano dans son appartement à lui, celui de l'avenue de New York à Paris. Puis Véronique Sanson rentre sagement le soir dormir chez ses parents.
Quand je suis
album va sortir en mars 1972.
Oui, l'album Amoureuse, fruit de leur symbiose, enregistré en à peine 10 jours. Nous étions le miroir l'un de l'autre, dira plus tard Véronique Sanson, ce que j'écrivais. Il aurait pu l'écrire et inversement, l'émulation était permanente. Dans sa biographie sur Michel Berger, Yves Bigot explique que le chanteur est certain d'avoir livré un chef-d'œuvre. Son accueil n'est hélas pas à la hauteur de ses espérances. Ça ne va pas les empêcher de se retrouver à nouveau en studio 6 mois plus tard pour mettre en chantier un second album.
Et comme je l'imagine,
ce deuxième album de Véronique Sanson, il s'appelle De l'autre côté de mon rêve. On est dans la même veine que le premier?
Pas vraiment, hein. Il est plus orchestré, plus riche, avec la présence de cordes, de cuivres, de percussions. Une belle place est évidemment laissée au piano. La voix de Véronique Sanson, elle, gagne en assurance.
Il est publié très vite, après son enregistrement?
Oui, le 8 décembre 1972, mais Véronique Sanson n'est déjà plus là. Son cœur s'est embrasé pour le rocker américain Stephen Stills. Comme je l'imagine, chante-t-elle, il vient de loin. Comme je l'imagine, c'est un musicien. Véronique Sanson s'est envolée pour les États-Unis. Lorsque sort l'un de ses titres les plus populaires, le voici sur Europe 1, chanson sur ma drôle de vie.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est parti tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même. Done.
La joyeuse chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson dans la partition sur Europe 1, une chanson qui, pour l'anecdote, comprend une faute de français. Le fameux « je fais ce que j'ai envie ».
Ah oui.
Ah, les sonorités des mots prend le pas sur le sens. Et d'ailleurs, son père, quand il l'écoutait à la radio, il changeait de radio.
C'est une licence poétique.
Voilà, exactement. Voilà. « Je fais ce que j'ai envie ». Véronique Sanson en concert ce soir, demain et mercredi, jour de ses 75 ans, hein, mercredi au Grand Rex à Paris, avec son fils Christopher Stills en première partie, le fruit de ses amours avec l'américain, le rocker Steven Stills.
Le rocker.
Voilà, viendront ensuite d'autres dates et des festivals cet été.
Merci Ombine Roche, excellent début de semaine avec Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez ce lundi 22 avril.
On est ensemble de 5h à 7h, vous écoutez Europe 1, bonjour.
Dans la demi-heure qui arrive, Ombline.
La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1.
Et nous irons en Inde ce matin. Des ressortissants indiens affirment avoir été enrôlés de force dans l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. On leur avait d'abord fait miroiter un bon poste en Russie. À 7h moins le quart, on va retrouver Jean Z, les initiatives positives.
Il nous parlera de cette start-up française Poppins qui mise sur le jeu vidéo pour accompagner des enfants atteints de troubles de l'apprentissage. Dans 10 minutes, votre interview écho.
Oui, vous utilisez peut-être des chèques restaurants au quotidien. C'est un vrai soulagement pour vos finances, pour aller déjeuner au restaurant ou pour faire vos courses. C'est possible depuis 2022, mais on a tendance à oublier que c'est provisoire. Ça doit s'arrêter à la fin de l'année, cette mesure. Or, vous êtes 96%. Autrement dit, presque tous à souhaiter que ça continue. Bercy réfléchit. Les restaurateurs s'en inquiètent. Ce serait pour eux un manque à gagner. Franck Delvaux, président du syndicat patronal UMIH Paris-Île-de-France, vient vous en parler à 7h moins 20 sur Europe 1. Dans un instant, la météo, toujours très hivernale. Danissa Adet, à tout de suite.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1, au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence.
Elle aurait dû fêter ses 14 ans. La petite Shannon, 13 ans, sera enterrée demain.
Shemseddine, battue à mort pour avoir osé échanger des messages connotés sexuellement avec la sœur de deux des assassins présumés.
L'incapacité de l'État royal à tenir les comptes publics a entraîné en 1789 le plus grand cataclysme de l'histoire de France.
Souhaitez-vous un référendum sur la politique migratoire ? Vous dites oui à 69%.
Tout le monde est content, les Iraniens ont défié le petit Satan. Israël a démontré l'efficacité de son dôme de fer.
On en apprend des choses sur Europe 1. A tout à l'heure, 7h-9h sur Europe 1.
Tout à l'heure à 6h50, retrouvez la revue de presse internationale avec Valtrus, leader européen du management de transition. Valtrus, c'est déjà plus de 3500 missions management de transition réalisées dans 50 pays.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1. Le temps pour ce lundi, Anissa Dadi. Eh bien, effectivement, nous avons encore ce 22 avril dégelé et de la neige.
Dégelé matinal, oui, avec moins 3 degrés à Abondance, moins 2 à Guéret, moins 1 à Montluçon, Gap et Rodez. Ce matin, 0 petit degré pour Charleville-Mézières et Saint-Étienne. 2 à Angoulême, Rouen et Vesoul, 3 degrés à Quimper, Nantes, Lille et Lyon, 4 à Paris, vous voyez qu'il fait frais partout, hein. 5 degrés à Caen et Boulogne-sur-Mer, 6 à Marseille, Nîmes et Biarritz, 8 à Ajaccio et 12 à Bastia. Alors vous vous dites, les températures qu'Anissa nous annonce sont bien fraîches, mais en plus de ça, le ressenti sera encore plus froid parce qu'aujourd'hui la bise se lève et elle souffle sur l'ensemble du territoire. La bise, c'est ce vent du nord, alors qu'on connaît dans le sud sous le nom du Mistral, hein, qui est ce vent du nord qui souffle dans la vallée du Rhône et jusqu'à la Méditerranée. Là, la bise, elle souffle sur l'ensemble du pays, notamment sur le nord, l'est de la France, le centre, et ça rend l'atmosphère encore plus glaciale. Cet après-midi, il fera 8 degrés au Puy-en-Velay, 8 à Grenoble, 10 degrés à Dijon, Besançon et Lille, 12 à Paris, Cherbourg et Limoges, 14 degrés à Nice, Marseille, Brest, Bordeaux, 15 degrés à Vannes, 16 à Quimper et 17 à Montpellier. Beaucoup de nuages sur la façade ouest du est, pardon, entre l'Alsace et les Alpes, avec de la neige toujours à basse altitude dès 400 mètres pour les Vosges et le Jura. Des nuages également le long des côtes de la Manche. Partout ailleurs, on verra de belles éclaircies puisque l'anticyclone nous protège des averses.
Merci Anissa Dadi. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour à tous. Il est 6h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Un mois après le lancement de l'opération PlaceNet XXL, près de 4000 interpellations. Mais les dealers ont-ils vraiment disparu? Enquête Europe 1 à Montpellier dans ce journal. Gabriel Attal inaugure un internat éducatif dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Une solution du Premier ministre pour endiguer la délinquance des mineurs. Les mesures proposées pourront-elles suffire? Élément de réponse à suivre. 86 morts et des centaines de blessés. L'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, à nouveau devant la justice à Nice aujourd'hui. Deux proches du terroriste ont fait appel de leur condamnation. Et puis le début aujourd'hui de la Pâque juive. Nous irons en Israël où les tensions restent vives avec l'Iran, situation que tente d'apaiser un journaliste juif iranien. Europe 1 l'a rencontré. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Mettre un coup d'arrêt au trafic de drogue, rendre la vie des dealers impossible. Les promesses d'Emmanuel Macron ont-elles été tenues? Un mois après le début de l'opération PlaceNet XXL qui mobilise plus de 55 000 policiers et gendarmes, le gouvernement se félicite d'avoir mené 4 000 interpellations, déféré 600 trafiquants. Mais sur le terrain, les dealers sont toujours là, même pas peur. Reportage à Montpellier dans le quartier sensible d'Aigle Longue du correspondant d'Europe 1 Charles Huillier.
L'opération PlaceNet, on s'en bat les couilles.
Ici, la dizaine de très jeunes guetteurs a repris place en bas des immeubles et c'est l'un des grands du quartier qui encadre.
Moi, alors ici, mon rôle, c'est de commander les guetteurs. J'ai juste à poster les guetteurs le matin et le soir à les payer. D'accord. Et ils touchent 130 euros par jour.
Sa juteuse activité ne s'est d'ailleurs jamais vraiment arrêtée, car ici, c'est du deal 2.0. Après avoir exposé sa marchandise sur les réseaux sociaux, il dispatche ses livreurs un peu comme un Uber Eats de la drogue.
PlaceNet, ça sert à rien, franchement. Parce qu'en fait, eux, ils viennent. En fait, nous derrière, on a des livraisons, on a des envois par colis. Il n'y a pas que du surplace, quoi.
Et pour le surplace, justement, les transactions s'effectuent devant une école maternelle située derrière la cité, au grand dam de cette institutrice, pourtant pleine d'espoir avant PlaceNet.
Ils sont entre le foyer de l'enfance et l'école maternelle. Les enfants voient ça et se questionnent. Ça montre le mauvais exemple. C'est dérangeant, c'est insécurisant.
Un business très loin d'être éteint, surtout que le chiffre d'affaires généré par la drogue ici atteint les 200 000 euros par mois. À Montpellier, Charles Huillier, Europe.
Le début aujourd'hui du couvre-feu pour les mineurs en Guadeloupe. Pendant deux mois, ils devront rester à la maison après 20 heures.
Un dispositif voué à l'échec pour certains élus guadeloupéens qui jugent que 20 heures, c'est trop tôt et estiment discriminant que l'archipel soit le seul concerné par cette mesure.
Alors que 67% des Français souhaiteraient voir imposer ce couvre-feu sur tout le territoire national à partir de 23 heures, c'est ce que vous révélez ce week-end. Un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD.
En attendant, Gabriel Attal a d'autres solutions pour endiguer la délinquance des mineurs. Le Premier ministre inaugure d'ailleurs aujourd'hui à Nice un internat éducatif. Objectif, sortir les jeunes à risque de leur quartier avant qu'ils ne basculent dans les trafics ou la violence. Ils y passeront les vacances scolaires sur la base du volontariat.
Mais ce n'est pas tout. Sur le volet judiciaire, la semaine dernière à Viry-Châtillon, Gabriel Attal a décidé d'atténuer le principe d'excuse de minorité.
Et de mettre en place des comparutions immédiates dès 16 ans. Jean-Baptiste Marty, le Premier ministre, veut aider la justice des mineurs qui est en grande difficulté.
Des mineurs délinquants de plus en plus jeunes, 15 ans en moyenne, de plus en plus violents, mais surtout de plus en plus nombreux, plus 5% par rapport à 2018, avec en face pas ou peu de réponses pénales, souvent par manque de budget, selon Anne-Sophie Lagance, avocate au barreau de Paris.
C'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens, on n'a pas suffisamment d'éducateurs, on n'a pas suffisamment de magistrats, et on a des décisions, un temps judiciaire qui est très long.
Car le constat est accablant, entre 9 mois et 1 an et demi, voilà le délai pour juger ces jeunes délinquants. Un temps long qui, dans de nombreux cas, se termine par un classement sans suite, faute de suivi. Une justice française également trop clémente, selon Georges Fenech, ancien magistrat.
Vous avez des mineurs qui, jusqu'à l'âge de 18 ans, n'auront pas fait un seul jour de privation de liberté, voyez-vous, parce qu'on ne veut pas. On considère que la prison est criminogène. Or, toutes les études montrent, et les pays nordiques viennent de le faire, et avec succès, qu'une courte peine d'emprisonnement au départ est extrêmement dissuasif pour l'avenir.
Une solution pourtant écartée en France avec ce leitmotiv, encore et toujours, éviter la casse-prison.
Jean-Baptiste Marty, notez que c'est aujourd'hui la rentrée scolaire à Montpellier. La jeune Samara, rouée de coups à la sortie de son collège avant les vacances, reprendra les cours en distanciel. Elle n'est pas encore capable de retourner en classe, selon le rectorat, qui a pris des mesures conservatoires et disciplinaires contre les collégiens mis en cause dans cette affaire.
Europe 1, 6h33, le procès en appel de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice s'ouvre aujourd'hui.
Près de 500 jours après le verdict, deux des huit accusés vont être rejugés. Mohamed Graieb et Chokri Chafroud sont des proches de l'assaillant abattu le soir de l'attentat au volant de son camion bélier qui a tué 86 personnes et fait des centaines de blessés sur la promenade des Anglais. En première instance, ils ont tous deux été condamnés à 18 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes. Frédéric Michel.
Oui, la justice considère que Graieb et Chafroud ne sont pas complices du terroriste, mais ont joué un rôle dans sa dérive islamiste et meurtrière. Les juges, lors du premier procès, ont estimé qu'ils avaient participé au projet criminel du tueur au camion, sans pour autant connaître les détails. Maître Philippe Soucy est l'avocat de plusieurs dizaines de parties civiles.
En ce qui concerne Graieb, sa proximité idéologique avec la Wejboulel, avec l'auteur principal de l'attentat, a été déterminée sans la moindre difficulté. Et en ce qui concerne Chokri Chafroud, le second accusé, une proximité quant au mode opératoire employé.
Le premier procès n'a pas permis de répondre à toutes les questions. De nombreuses zones d'ombre demeurent. Est-ce qu'un second attentat était en préparation? Le terroriste a-t-il incriminé volontairement ses amis? Et pour quelle raison? La jalousie, la folie, comme s'est défendu Mohamed Graieb, ou alors parce qu'ils ne l'ont pas rejoint ce soir-là? Dans les jours et les heures qui ont précédé le carnage, la Wejboulel, on le sait, rencontre Chafroud et Graieb à plusieurs reprises, leur montrant même le funeste 19 tonnes blanc qu'il lancera dans la foule.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice.
En Israël, c'est le début aujourd'hui de la Pâque juive. Fanny, une fête familiale, mais sur fond de tension avec l'Iran.
Oui, la menace est permanente, une angoisse au quotidien pour les Israéliens et une douleur particulière pour les quelques 20 000 juifs iraniens installés en Israël, pour la plupart après la révolution islamique. Ram Amrani en fait partie. Chaque jour, il suit et commente la situation au micro de sa web radio avec l'ambition de déjouer la propagande du régime iranien. L'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers, l'a rencontré.
Dans son petit studio sur les hauteurs de Jérusalem, Rani prend tous les jours l'antenne. Il parle en persan, sa langue natale, depuis Israël, son pays d'accueil.
L'Iran, c'est comme ma mère et Israël comme mon père. Et en ce moment, je me sens tel un enfant dont les parents se disputent.
À l'antenne, le ton est ciselé, les sujets brûlants.
On parle beaucoup d'actualité israélienne et européenne et on la décrypte en persan pour que les Iraniens comprennent ce qu'il se passe vraiment en dehors de l'Iran. Et pas ce qu'essaie de leur faire croire le régime des Mollahs, qui ment tous les jours au peuple.
L'animateur et ses collègues touchent près de 9 millions de personnes sur leurs différentes plateformes. Ils décryptent évidemment les récentes tensions avec leur perspective de juifs iraniens. Rani Amrani est même régulièrement invité sur les plateaux télé israéliens.
Ça aussi, c'est important. Essayer d'expliquer aux Israéliens ce que pensent les Iraniens, de leur dire que nous ne sommes pas tous leurs ennemis, mais que c'est le régime leur véritable ennemi.
Rani multiplie aussi les appels à la paix, lui qui rêve de revoir un jour l'Iran. Un rêve qui ne pourra se réaliser qu'une fois que les Mollahs auront quitté le pouvoir. Jérusalem, Wilfried de Villers, Europe 1.
Un mot de football, victoire hier du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 face à l'Olympique Lyonnais. C'était pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.
Merci Fanny Marceau, soyez tous les bienvenus sur Europe 1, il est 6h37.
À 7h moins le quart, vous allez retrouver les initiatives positives de Jean Z avec ce matin un jeu vidéo pour aider les enfants atteints de troubles de l'apprentissage. Dans un instant, Alexandre Lemaire, votre interview écho.
Vers une réforme des chèques restaurants, Bercy doit faire ses propositions dans les prochains jours. Dématérialisation totale, oui, mais aussi maintenir peut-être la possibilité de payer vos courses avec. La mesure est censé s'arrêter à la fin de cette année. Les restaurateurs craignent là un manque à gagner. Franck Delvaux, le président de l'UMIH Paris-Île-de-France, nous rejoint dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
Bonjour, c'est Thomas Hill.
Culture Média.
On va vivre une semaine exceptionnelle dans Culture Média avec les visites de Virginie Ledoyen, André Dussolier, Thierry Lhermitte, le grand réalisateur Jean-Marie Poiré, mais aussi Cœur de Pirate et David Hallyday qui chanteront en live dans nos studios.
Culture Média, présenté par Thomas Hill.
Alors rendez-vous ce matin de 9h30 à 11h sur Europe 1.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Cyril Roger, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur communication et innovation chez Michelin. L'innovation et Michelin, c'est une histoire d'amour.
Absolument, et ça fait même 130 ans que l'innovation est au cœur de l'histoire de Michelin. D'ailleurs, nous faisons partie des 100 entreprises les plus innovantes au monde.
Et justement, sur quelles innovations travaille Michelin ?
Eh bien, au-delà de notre ambition de créer des pneus tout durables d'ici 2050, nous exploitons aussi notre savoir-faire en matériaux composites pour ouvrir de nouveaux horizons.
Lesquels, par exemple ?
Alors, Michelin travaille notamment sur le projet Wizamo, un système automatisé d'ailes gonflables pour cargo qui vise à réduire les gaz à effet de serre du transport maritime.
Merci Cyril Roger.
Mano Mano. C'est le retour des Mano Mano Days, des maxi promos pour vous équiper, comme sur le nettoyeur haute pression Karcher K5 à 199€.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Mano Mano.
C'est aussi des Pro Days sur le site et l'appli Mano Mano Pro. Mano Mano. Offre valable du 16 au 29 avril, voire conditions sur manomano.fr.
Hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7 000€ à tous.
3 000€ de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79€ par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2 650€, bonus éco 4 000€, remise éco Fiat 3 000€ et prime à la conversion de 1 500€ déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Fiat.
Europe 1. Il est 7h20. Bienvenue, chers auditeurs, si vous nous rejoignez ce lundi 22 avril. Et bonjour, Dimitri Pavlenko.
Bonjour, Alexandre. Bonjour, Ambline.
Bonjour.
Bonjour, chers auditeurs.
À la une d'Europe 1 matin, à partir de 7h, Dimitri.
Eh bien, écoutez, on va parler de la semaine politique qui s'annonce intense avec deux grands rendez-vous. Le premier, ce sera jeudi. C'est le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe à la Sorbonne, comme en 2017. Hein, vous savez, le grand discours fondateur de Macron, l'européen. Donc, ce discours Sorbonne 2, jeudi, bah, ce sera, sans le dire, l'entrée du président de la République dans la campagne des européennes, hein, qui est dominée pour le moment de la tête et des épaules par Jordan Bardella, qui d'ailleurs a reçu un carton d'invitation pour aller écouter le chef de l'État à la Sorbonne. Alors est-ce qu'il s'y rendra? On verra ça. On veut en tout cas croire chez Renaissance que le vote Bardella, c'est rien de plus qu'un vote anti-Macron. Bon, voir. Le second rendez-vous, ce sera vendredi, la nouvelle notation de la dette souveraine française par l'agence Moody's. Alors vous savez, c'est Mozart face à son jury. Quoi, on aurait un problème de dette en France? C'est en substance ce que nous dit le président de la République depuis deux semaines. Il n'y croit pas du tout. Alors que dans Les Échos ce matin, le gouverneur de la Banque de France, à ces mots, il tire la sonnette d'alarme, François Villeroy de Galhau, alors à la manière d'un gouverneur, hein, c'est-à-dire en termes fort policés. Quant aux finances publiques, il dit « Cessons de croire que la croissance va régler notre problème de déficit ». Or, c'est exactement la philosophie présidentielle. Cessons d'y croire. Vous voyez, les mots sont aussi forts que pesés au trébuchet. On va en parler ce matin sur Europe 1.
A tout à l'heure, Dimitri Pavlenko.
L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent.
Europe 1, il est 6h41.
Vous avez peut-être des tickets restaurants dans votre portefeuille et vous êtes d'ailleurs bien content de les trouver pour régler votre déjeuner, le midi, mais aussi pour aller faire vos courses, puisque c'est une possibilité qui a été ajoutée en 2022 en pleine inflation. Or, c'est une mesure, on l'a peut-être oublié, censée être provisoire. Elle doit normalement s'arrêter à la fin de l'année. Alors, est-ce qu'il faut la pérenniser? Bercy doit proposer une réforme avant la fin du mois.
Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Alexandre Lemaire. Il s'agit de Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et industrie de l'hôtellerie Paris-Île-de-France.
Bonjour Franck Delvaux.
Bonjour.
Le gouvernement réfléchit effectivement à maintenir la possibilité de payer ses courses alimentaires avec des chèques restaurants au-delà de 2024. Vous la prenez comment cette nouvelle? C'est pas très bon, j'imagine, pour le secteur de la restauration?
Non, effectivement, on le prend mal parce qu'on se trompe complètement. On comprend le problème des Français, le problème de l'inflation. On est aussi, nous, touchés dans les restaurants, les cafés, les brasseries, par les augmentations du prix des matières premières. Mais dans ce cas-là, il faut appeler ça un titre inflation. Parce que le titre restaurant, quand on reprend l'histoire du titre restaurant, il a toujours servi. C'est un décret qui date de 1967 pour aller déjeuner le midi pendant ce qu'on appelle la pause méridienne, pour ce que les gens qui travaillent puissent se restaurer, passer un moment de détente avant de reprendre le travail.
Donc on l'a dénaturé, on l'a détourné de son usage initial.
Oui, complètement. D'ailleurs, c'est assez simple. Titre restaurant, ce n'est pas marqué titre supermarché, titre boulangerie, titre boucherie. Titre restaurant. Donc c'est fait pour aller dans les restaurants pour déjeuner. C'est pas fait pour aller acheter le rôti de bœuf chez le boucher pour la famille le dimanche, ni le gâteau d'anniversaire chez le boulanger, ni, et c'est ça le pire, chez les industriels, parce que qui gagne de l'argent là-dedans? C'est les industriels qui vendent des sandwichs sous vide, je ne nommerai pas de marque, ou des sortes de pâtes sous vide, puisqu'ils ont tous mis des rayons, même certains font de la communication en disant maintenant on accepte les titres restaurants.
Donc, sauf en fait, que deux événements sont passés par là, Franck Delvaux. La crise sanitaire, tous les restaurants fermés, et puis l'inflation, naturellement. C'est un levier important quand le budget est serré pour aller faire ses courses que d'avoir des tickets restos à dépenser.
C'est pour ça que j'ai dit on le comprend parfaitement. mais il faut que le gouvernement crée un autre titre, un titre inflation, pour aider les Français dans leur vie quotidienne. Mais on n'a pas à faire les poches des restaurateurs.
Parce que ça se pose comme ça, selon vous. On vous fait les poches.
Bien sûr, on fait les poches des restaurateurs, puisque nous, on constate qu'on a de moins en moins de titres restaurants qui arrivent, ou de cartes, maintenant il est dématérialisé, de cartes dématérialisées, au profit de qui ? Au profit des supermarchés et ce genre de magasins qui eux les prennent, et qui font de la communication. Pour vendre quoi ? Quel type de produit ?
Est-ce que vous mesurez depuis qu'il est également possible de faire ces courses alimentaires avec les chèques restaurants, le manque à gagner que ça représente pour vous, restaurateurs ? Est-ce que ça, vous le mesurez ?
Bien sûr, on mesure, on voit bien, on a de moins en moins...
Mais de quel ordre ?
On a dans environ 10-20% de moins de titres restaurants aujourd'hui.
Ça, c'est quelque chose que vous mesurez en moyenne au restaurant.
Bien entendu, on le sait maintenant parfaitement qu'on va faire ses courses avec les titres restaurants. On va acheter chez le boulanger, on va acheter chez le boucher, et puis on va dans les supermarchés, les petits magasins, on va faire ses courses avec.
Quand Olivia c'est Grégoire, la ministre déléguée en charge du tourisme, vous suggère à vous, restaurateurs, d'être plus imaginatif, plus créatif pour attirer les clients. J'imagine que ça vous fait réagir, ça, Franck Delvaux.
Imaginatif, déjà on est là, on travaille, on est ouvert le midi, on fait des métiers qui sont pas forcément faciles. On est ouvert quand les autres ont envie de s'amuser, puisqu'on est ouvert le soir, on est ouvert les jours fériés. Donc on est là, on travaille. Qu'est-ce qu'on va imaginer ? Je vous dis, moi je prends simplement le mot titre restaurant. Mmh. Est-ce que c'est marqué titre supermarché, titre boulanger, titre boucher ?
Non. Le moment est peut-être venu de mettre en valeur le fait maison, ou de le promouvoir davantage. C'est un argument de vente pour les restaurateurs.
Bien sûr, mais...
Tous les restaurateurs ne font pas du fait maison, Franck Delvaux.
Non, tout le monde ne fait pas du fait maison, mais est-ce que si on ne fait pas du fait maison, c'est forcément mauvais ?
Je n'ai pas dit ça.
Voilà, je pense que c'est une erreur fondamentale de vouloir opposer le fait maison ou le non fait maison. Mmh. Alors, contre qui on se bat ? Oui, les supermarchés, je vous dis, qui vendent des sandwichs sous plastique ou des bols de pâtes, des choses... Oui, mais après, on peut opposer toujours le fait maison, le non fait maison. Surtout que la loi existe déjà. Hein. Oui. La loi fait maison existe déjà.
Regardons quand même ce chiffre. 96% des Français sont favorables à la prolongation du dispositif. Autrement dit, pérenniser la possibilité de faire ses courses alimentaires avec des chèques restaurants. Ça, c'est quand même difficile de ne pas en tenir compte. C'est la quasi-unanimité des Français qui disent « Oui, je veux continuer à aller faire mes courses au supermarché avec mes chèques restaurants. »
Bien sûr, mais moi, si moi-même j'avais des titres restaurants, sûrement je dirais « Moi aussi, je vais aller faire des courses, moi aussi, je vais aller acheter mon gâteau avec. » Mais, une fois de plus, on se trompe, c'est un titre inflation pour aider les Français dans leur vie quotidienne, pour les aider à faire leurs courses.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée en discussion, hein, d'un double plafond c'est-à-dire qu'il serait plus important, je pourrais dépenser davantage quotidiennement avec mes chèques restaurants en allant au restaurant qu'en allant au supermarché. Ça, c'est une mesure qui vous paraîtrait équitable ?
C'est de l'artifice. Aujourd'hui, c'est 25 euros par jour pour aller dans les restaurants.
Oui.
On peut l'utiliser. C'était plus pendant le Covid. Maintenant, c'est 25 euros. Par contre, il y a une autre question qu'on peut se poser aussi. Que deviennent les titres restaurants non utilisés ? Que deviennent ces titres restaurants ? Parce que les émetteurs ont déjà touché l'argent. Nous, on paye des commissions importantes sur titres restaurants. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. De dire, diminuons les commissions que prennent les opérateurs, puisque de toute façon, il y a une grande partie.
Oui.
Ça représente environ 50 millions d'euros de titres restaurants non utilisés.
Franck Delvaux, les Jeux Olympiques approchent. Vous êtes prêt ? Vous avez les bras ? Parce qu'on sait que le secteur de la restauration est en manque chronique de main-d'œuvre. Ça va aller ?
Alors, sur Paris, Île-de-France, c'est pas notre problème numéro un. Oui, on sera prêt et on est ravis, évidemment, d'accueillir les Jeux Olympiques. Ça va mettre un phare sur la région, sur la ville de Paris. Et donc, on est ravis de les accueillir.
Vous représentez aussi l'hôtellerie, qui ne fait pas le plein. Est-ce que ça vous surprend ?
C'est dès le mois de décembre 2023, il y a eu beaucoup de sujets sur des exemples de chambres d'hôtel, des prix multipliés par 10, par 15. Dès décembre 2023, j'ai dit, attendez, il y a plus de 200 000 chambres d'hôtel à Paris-Île-de-France. Toutes n'étaient pas mises sur le marché. Et j'ai dit, les prix vont baisser. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, je discutais, pas plus tard, il y a deux jours, avec un hôtelier qui a vendu à même pas x2 ses chambres, une fois et demi le prix. Et dans toutes les villes où il y a eu les Jeux Olympiques, les prix étaient multipliés entre 2 et 3. Et si vous me permettez une dernière phrase, peut-être, c'est de dire, mieux vaut aller dans un hôtel que dans une location meublée touristique de courte durée, parce que le prix moyen, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des études, et moins cher dans les hôtels.
On a bien perçu votre message, Franck Delvaux, et donc ça veut dire qu'il reste des places pour aller à l'hôtel pendant les Jeux Olympiques. Merci Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et industries d'hôtellerie Paris-Île-de-France.
C'était l'Invité Écho avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024. I'm free.
Europe 1, 6h48, les initiatives positives.
Bonjour Jean Z.
Bonjour Alexandre, bonjour Ombline.
Bonjour.
Ce matin, on parle d'un jeu vidéo destiné à aider les enfants atteints de dyslexie.
Oui, un joli décor de dessin animé, un personnage qu'il faut guider avec dextérité pour éviter les nombreux pièges et ne pas tomber dans l'eau. En apparence, le programme développé par la société Poppins, qui porte le même nom que Mary Poppins, ressemble à un jeu vidéo comme les autres et pourtant il assure le suivi des troubles de l'apprentissage. Troubles de l'apprentissage autrement appelé DYS, le plus connu de ces troubles est effectivement la dyslexie, un trouble de la lecture désormais mieux connu, mieux entouré en France. La Fédération française des 10 estime qu'entre 6 à 8% de la population en souffre, soit plus d'un million d'enfants, 1,3 million d'enfants environ, c'est beaucoup. Une dyslexie qui se révèle généralement en CP et qui arrive parfois accompagnée d'autres troubles. Il y a la dyspraxie qui touche à la coordination des gestes, la dysphasie pour l'expression orale ou encore la dyscalculie qui concerne les nombres comme son nom l'indique.
Où l'on découvre que les jeux vidéo n'ont pas que des défauts.
Oui,
comment un jeu vidéo peut-il aider ces personnes, justement?
Bon, alors déjà, le jeu a été développé, Poppins a été développé à destination des enfants 10 de 7 à 11 ans, jeu vidéo conçu notamment avec Ubisoft, c'est le géant français du jeu vidéo, et un jeu disponible sur tablette et smartphone. C'est donc du tactile, donc plus facile, on va dire, à jouer. L'application réunit plus de 25 jeux, il s'adapte aux divers troubles dont je viens de parler, de la dyslexie à la dyspraxie. Le jeu est le fruit de 5 ans de recherche déjà, avec des sciences cognitives par exemple. Il est né d'un constat, 45 minutes par semaine de prise en charge au lieu de 10 à 30 minutes, 5 fois par semaine selon les recommandations du Collège français d'orthophonie, voilà, le parcours des enfants 10, le parcours de soins est insuffisant en France. Poppins a été testé pendant 8 semaines lors d'un essai clinique. Les conclusions, des progrès en précision, en rapidité de lecture. Il y a du mieux côté orthographe également et une meilleure reconnaissance, on va dire, des soins. Les parents les parents aussi font partie de la fête. L'interface est disponible en ligne pour eux afin de suivre les progrès de l'enfant. On peut même parler, échanger avec d'autres parents pour se filer des conseils.
Alors si c'est un médicament, Jean, c'est quoi la posologie?
Alors s'il y a, et il y en a des enfants qui nous écoutent, qui écoutent Europe 1 et qui se disent que Poppins est la bonne occasion pour jouer non-stop.
Exactement.
Mais j'ai une mauvaise nouvelle, Poppins bloque tout seul, il bloque à 20 minutes quotidiennes son utilisation face au risque de surconsommation des écrans.
On ne remplace pas une pathologie par une autre.
Exactement, et c'est aux parents finalement de décider d'outrepasser en fait cette limite ou pas, voyant s'il y a des progrès par exemple, se dire on va prendre 10 minutes de plus. Alors généralement on joue le soir après les devoirs, c'est 5 fois par semaine, 3 à 5 fois selon les besoins, les demandes et les progrès. Puis il y a un prix de l'abonnement, ça va de 26 à 39 euros par mois. Ce coût est pris en charge en partie par certaines mutuelles. Et puis à noter que c'est pensé comme un assistant, une aide complémentaire à l'orthophonie. Cela ne se substitue pas aux consultations avec un spécialiste.
Merci Jean Z, les initiatives positives sur Europe 1. À demain.
À demain.
C'était Initiative Positive avec General IPM et Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Il est 7h10 sur Europe 1, le journal permanent, Fanny Marceau.
Le début aujourd'hui du couvre-feu pour les mineurs en Guadeloupe. Pendant 2 mois, ils vont devoir être à la maison à 20h. Dispositif voué à l'échec pour les élus guadeloupéens qui jugent que 20h, c'est trop tôt et estiment discriminant que l'archipel soit le seul concerné par cette mesure. Le procès en appel de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui avait fait 86 victimes et des centaines de blessés, s'ouvre aujourd'hui. 2 des 8 accusés vont être rejugés. Il s'agit de 2 proches de l'assaillant condamné à 18 ans de réclusion en première instance. Le projet de loi sur la fin de vie, qui prévoit notamment une aide active à mourir, entame son parcours législatif ce soir, 18h, première étape, la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Ce matin dans le Figaro, 13 fédérations et organisations de soignants demandent à être entendues. La colère des professionnels de la restauration ce matin sur Europe 1, alors que le ministère des Finances réfléchit à pérenniser la possibilité de faire ses courses avec des tickets restaurants, mesure qui fait perdre aux restaurateurs 10 à 20% des paiements en titre restaurant. L'interview du président de l'UMI Paris-Île-de-France à retrouver sur Europe1.fr.
Merci Fanny Marceau, le journal de 7h dans un peu plus de 5 minutes sur Europe 1.
Et dans un instant, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. A tout de suite.
Europe 1.
Si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde, DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390 euros par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Hey,
Les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir. Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370 euros par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800 euros réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
La revue de presse internationale à 7h05 sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Inde. Bonjour, Combastin.
Bonjour.
Vous êtes à New Delhi pour Europe 1. Comment Poutine recrute de nouveaux soldats pour aller combattre en Ukraine? Les journaux indiens s'intéressent de près au sujet. De quoi est-il question exactement?
De ces Indiens rescapés du front ukrainien où ils affirment avoir été enrôlés de force. La BBC consacre un portrait à un jeune du Kerala qui témoigne pour la première fois. Il dit avoir été attiré par une annonce pour un job de gardien en Russie, payé 2000 euros par mois. Sauf qu'une fois sur place, il a été envoyé se battre contre son gré. Et il n'est pas le seul dans ce cas, rapporte ABP Live, qui cite de jeunes hommes plongés dans la mort et la destruction, traumatisés par l'horreur de la guerre. Le sujet est sensible. Sans soutenir Poutine, l'Inde ne prend pas parti dans le conflit au nom de sa longue amitié remontant à l'URSS. La Russie est aussi un grand fournisseur d'armes et de pétrole. Alors la diplomatie indienne dans le Time of India explique qu'elle a rapatrié ses citoyens sans plus de commentaires.
Nous sommes aussi en Italie ce matin avec Antonino Gallofaro. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux italiens ?
Ces nombreuses affaires de corruption qui frappent la gauche comme la droite. La dernière en date, en Sicile, 11 personnes arrêtées pour marchandage de vote et mafia, écrit par exemple Il Sole 24 Ore. Le vice-gouverneur de droite a été suspendu, selon le journal, car il a rencontré un boss mafieux. La Sicile n'est pas un cas isolé. Hein. Des affaires similaires dans les Pouilles et dans le Piémont continuent d'alimenter les premières pages des journaux. À Bari, un adjoint du maire démocrate est accusé d'avoir détourné quelques 8 millions d'euros de fonds européens, selon la République. Et puis, de l'autre côté du pays, à Turin, une autre enquête touche le Parti démocrate. Un ancien membre du parti est accusé de corruption électorale, explique la RAI, la télévision publique, révélant aussi que des chantiers de la ville ont été infiltrés par la mafia calabraise.
Merci Antonino Gallofaro. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
La revue de presse internationale vous a été présentée par Valtus, leader européen du management de transition. Déjà plus de 3500 missions dans 50 pays.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Europe 1, il est 6h57.
L'heure de retrouver Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Blin Roche, bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue chers auditeurs. Il y a un mois à Marseille, souvenez-vous, la première opération PlaceNet XXL. Alors depuis, c'est devenu un label politique dont on baptise toutes les grosses opérations de sécurité. Mais alors, quel bilan exact pour PlaceNet ? Europe 1 fait les comptes. Aujourd'hui, parole aux habitants des cités, parole aux policiers, aux dealers également. À Montpellier, vous l'entendrez, PlaceNet, comme disent les jeunes, on s'en bat les... Bon, je finis pas la phrase. je vous aurais saisi le message. Les jeunes, la violence à Nice également ce lundi où Gabriel Attal va lancer un internat éducatif pour les élèves à la dérive, comme il dit. Ceux qui tombent dans la spirale de la délinquance, voire du crime, cet internat sera ouvert, y compris pendant les vacances scolaires, avec des cours de soutien et d'éducation civique. Alors Matignon ajoute tout de suite, il n'y a rien d'imposé ou de répressif, hein, mais n'est-ce pas précisément ce qui manque? On va en parler ce matin à 8h10 sur Europe 1 avec l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Thibaut de Montbrial, l'avocat spécialiste des questions de sécurité, et dans un quart d'heure avec la magistrate Béatrice Brugère. Elle est la secrétaire générale d'Unité Magistrat Force Ouvrière, auteur d'un ouvrage consacré justement à la justice et cette colère qui monte. Nous parlerons aussi du procès en appel de l'attentat de Nice qui s'ouvre aujourd'hui, de l'Ukraine également, ça y est, les milliards promis par les États-Unis l'année dernière vont arriver. Et puis voilà, on se réjouira tout simplement d'être avec vous, chers auditeurs. Et puis ah oui, on parlera du froid, hein, parce que vous allez voir ça.
On rallume les chaudières.
On a un petit hiver de printemps qui démarre aujourd'hui. Voilà pour le programme. Ombline Alexandre, on vous dit à demain.
À demain.
Merci, à demain.
Bon repos, rendez-vous 5h pour le coup d'envoi d'Europe 1. Bonjour. Le temps, Anissa Dadi. Non mais voilà, on parlait de fraîcheur, mais même de neige, il faut dire ce matin.
Oui, elle est toujours là, la neige. Hein, elle était là en fin de semaine, elle est toujours là. C'est la façade Est qui est concernée par ces chutes de neige des 400 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes, toute la journée. Le ciel est couvert, encombré avec des petites averses sur toute la façade Est. À l'Ouest, on a un temps un petit peu capricieux le long des côtes de la Manche avec des nuages, quelques averses ce matin. C'est très couvert entre le Finistère et les Hauts-de-France le long des côtes de la Manche. Partout ailleurs,